RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, toujours en direct du Salon de l'Industrie à Villepinte, le Salon Global Industrie jusqu'au 28 mars. On y parle technologie, on y parle innovation, on y parle relance de la capacité industrielle. Et pour ceux qui sont devant RMC Story, j'ai derrière moi un robot de 2,70 m réalisé par RS France, l'entreprise RS France qui est installée à Beauvais. RS France qui est distributeur de fournitures industrielles, outillages, composants électroniques, tests et mesures, et qui a des clients dans 50 pays. Encore une entreprise.
Attends, c'est quand même assez impressionnant, oui, ce qu'on voit, parce qu'il faut décrire.
Je
pour ceux qui
pas
nous
être
écoutent
à ta place, alors.
En fait, c'est Iron Man, ouais, et en version géant. Hein.
2,70 m.
2,70 m.
Ouais,
Mourad, ça fait un peu peur. Hein.
Ouais. Il y a les mêmes à Disneyland.
Mais ils sont moins grands.
Ouais. Chapeau à RS France, parce que voilà, c'est encore une pépite industrielle française, c'est encore vers chez toi.
C'est les Hauts-de-France.
C'est les Hauts-de-France, ouais. C'est à Beauvais, je vous dis, 2500 marques présentes dans 50 pays implantés à travers le monde. Eux, leur siège est à Beauvais et c'est spécialisé dans l'outillage, le composant électronique, les tests et les mesures. Le robot d'RS France, 2,70 m, ouais, derrière moi.
Une belle bête.
Une belle bête. Merci, monsieur. Voilà, je serre la pogne. Un de ces jours, il mieux faire attention.
Oui.
Très impressionnant, mais il faut plus de femmes dans les métiers de l'industrie.
Eh ben,
je vois des femmes et des jeunes filles
une
devant
femme,
moi.
Ce robot.
Le robot, il n'a pas de genre, enfin, Flora.
Mais oui,
l'expression de genre du robot.
Merci à RS.
Je
parlais
que je vois que des hommes autour de moi.
De nous avoir envoyé leur robot. On reprend notre discussion maintenant dans les GG, dans la team GG, à propos des super profits. Faut-il les taxer, oui ou non? Dans un instant, nous serons avec Loïc, un fidèle des GG qui est expert comptable. On va regarder où on en est dans la consultation. Faut-il taxer, oui ou non, les super profits? On est précisément à 74% de oui,
forcément.
Il faut taxer les super.
C'est quand même, notre fonds un peu cato, on n'aime pas les riches en France. Bien en France, on n'aime pas les gens qui riches.
Olivier, il y a 10% des Français qui ne mangent pas jusqu'à la fin du mois. Comment tu peux dire un truc pareil? Non, on est en train de dérembourser des médicaments pour des personnes qui souffrent à cause de leur mal-être au travail.
On les taxe déjà plus que partout dans le monde, nos entreprises.
Oui, bien sûr.
Et malgré ça, on arrive pas.
Il y a des domaines où c'est pas normal.
Vous
parlez d'un domaine que la recherche contre le cancer. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui pour que la recherche contre le cancer soit liée aux mêmes règles fiscales que le reste? Et on va même aller plus loin. Au niveau des super profits, l'intérêt aujourd'hui, c'est de ne pas trouver contre le cancer. Parce que le cancer représente une telle manne financière pour des super profits que si demain on trouvait peut-être le remède magique, ça ferait perdre beaucoup d'argent.
D'ailleurs, on a
super
dans la médecine esthétique.
On n'a pas le plus haut niveau de dépenses publiques au monde. On est un des pays qui a le plus haut niveau de dépenses publiques au monde.
Mais en fait,
et pour
ça
autant,
veut rien
on n'arrive pas à financer notre dépense publique. Pour
parce
autant, des
paye...
gens ne mangent pas, etc. Je pense que le problème, ce n'est pas
c'est
de prendre encore plus d'impôts. Le problème, c'est de mieux utiliser l'argent qu'on prend déjà au privé. Enfin, voilà.
D'accord,
vous êtes toujours sûr. Il
n'y
a pas assez de moyens.
On va passer par le
nous, on est pour donner de la morale à l'argent.
Tu sais, Olivier, toi qui adore la croissance et le PIB et qui en parle tout le temps.
Ça permet de construire des hôpitaux, la croissance.
Non, mais oui, mais
la
en fait,
décroissance,
d'accord,
ça fait mourir de faim.
D'accord,
tout le monde.
Mais en fait, si demain il y a une catastrophe naturelle comme les inondations dans le Pas-de-Calais, ça fait monter le PIB.
Oui.
Pourquoi ça fait monter le PIB? Parce que ça crée de l'économie et ça crée un cycle de croissance.
Et la guerre, ça fait monter
le PIB.
Il y aura des super profits pendant la guerre.
On continue avec des indicateurs en dollars comme ça et on conduit l'humanité à sa perte. Mais allons-y, vu qu'on est déjà sur la route. Sinon, il y a une autre solution, et c'est ce que les acteurs du Salon de l'Industrie font autour de nous.
Ah bon,
cette solution, c'est d'investir massivement dans la transition écologique énergétique.
Et donc,
il y a 15 jours, j'étais invité à intervenir dans un sommet sur les énergies renouvelables qui s'appelait le Power Earth Summit. Il y avait même Barack Obama qui était là dans ce sommet.
Ah, quelle chance.
Que disaient les industriels de ce sommet, c'était s'il vous plaît l'État, aidez-nous à transformer le modèle énergétique européen, s'il vous plaît. C'est les entreprises elles-mêmes qui demandaient à l'État d'être plus interventionniste. Donc arrêtez deux secondes de nous expliquer que le PIB, c'est le meilleur indicateur qui soit et que c'est avec un PIB qui montre que le bien-être des gens va grandir.
Parce qu'ils veulent juste qu'on leur fiche la paix, hein, les entrepreneurs.
Nous sommes avec Loïc qui est expert comptable dans le Val-de-Marne. Bonjour Loïc.
Salut les GG, salut à tous.
Alors Loïc, faut-il, oui ou non, taxer les super profits?
Alors, les super profits, lorsqu'ils sont issus de la spéculation financière, voilà, qui ne sont pas corrélés à l'économie d'une réalité, c'est-à-dire faire accoucher des enfants, soigner, voilà, sécuriser, créer des produits, créer des téléphones, livrer des téléphones, tout ce qui n'est pas lié à l'économie réelle et qui marche sur une forme de système de spéculation, doit être surtaxé, car comme l'a dit Mourad, c'est 4%, c'est 4 fois plus que le PIB de la planète Terre, et pourtant, c'est l'endroit qui est le moins taxé du monde, car vous mondialisez. Mmh. Alors à ça, c'est pas tout. Il faut aller sur un autre point. Oui, il faut aller sur un autre point. Il faut
dans ce cas-là, c'est plus taxer les dividendes.
Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Il faut fiscaliser l'humain par rapport à l'endroit où il vit. Donc déjà, la spéculation financière, elle doit être taxée au même titre que l'économie réelle. Pourquoi l'artisan paye plus d'impôts que quelqu'un qui fait la spéculation sur la vente de coton, premièrement? Et deuxièmement, il faut le fiscaliser par rapport à l'endroit qu'il vit. Bien fini la fiscalité, parce que j'ai mis ça dans les îles Caïmans, je suis taxé au niveau des îles Caïmans. Non, l'Amérique, c'est un pays ultra-communiste, les États-Unis, c'est ce qu'ils font. Et il n'y a pas d'emmerde.
Voilà.
Même les patrons GAFA disent... Taxez-nous plus, on n'est pas assez taxé. Vous avez fait trop de cadeaux. Macron a fait trop de cadeaux aux ultra riches.
Ouais. Et pour compléter ce que vous dites, vous savez que vous pouvez acheter. Vous savez que vous pouvez acheter la production mondiale d'aluminium en un micro de seconde, la revendre dans la même micro de seconde et avoir une taxation limitée, alors que vous n'avez créé aucun emploi, vous avez juste fait de la spéculation.
Ce qu'on voulait faire, c'était la taxe Tobin, tu te souviens?
Oui, mais on est rare payé à l'avoir appliqué. Si je peux parler à l'auditeur, parce qu'il a fini là maintenant, mais là vous parlez d'autre chose, vous ne parlez pas des taxes de super profit, vous parlez des dividendes. Oui. Effectivement, pourquoi pas taxer davantage les dividendes?
Dans les dividendes d'une grande entreprise, vous me dites qu'il n'y a aucune spéculation financière sur les marchés qu'ils réalisent?
Si, bien sûr que si.
Si, bien sûr, mais vous pouvez taxer le produit de ces dividendes.
Non, ce dont on parle, Olivier...
Les entreprises à investir dans le circuit économique.
Ce dont on parle, Olivier, c'est parmi les bénéfices, qu'est-ce qu'on donne aux actionnaires qui sont donc des dividendes et qu'est-ce qu'on investit massivement. Moi, qu'on l'investisse dans les caisses de l'État ou qu'on l'investisse dans la transition écologique, ça me va. Ou dans le care, le bien-être de la société, les hôpitaux, l'ééducation nationale. Enfin, voilà, en fait...
Le problème, c'est que l'État gère mal. Donc, moi, je ne fais pas confiance par définition à l'État pour gérer notre argent.
D'accord.
L'État
est. On peut leur imposer de réinvestir.
On est le pays qui verse le plus d'impôts et on s'aperçoit que malgré ça, on a un déficit et une dette qui n'a jamais été aussi importante. Le jour où l'État fera la démonstration qu'il gère bien notre argent, je suis d'accord, on pourra lui confier la vie des entreprises.
Aujourd'hui, tu peux faire BlackRock qui travaille pour les retraités en Floride.
Olivier, attends, parce que ça, c'est le cœur de mon activité professionnelle, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Je croise des personnes qui sont à des postes dans des grands groupes du CAC 40 de directeurs, directrices RSE depuis 20-25 ans. Ça fait depuis les années 2000 qu'il y a des directeurs RSE. Et qu'est-ce qui vous explique de 2000 à 2024 leurs budgets n'ont jamais augmenté? En fait, le problème, c'est que si on se base sur le bon vouloir des entreprises, on n'arrivera jamais nulle part. Parce qu'une entreprise, on ne lui demande pas la morale. Comme vous l'avez dit très justement, on ne demande pas à un chef d'entreprise d'être dans la morale et dans la politique. Il faut que chacun fasse son travail. Donc les politiques, ils font des lois pour faire de la redistribution et les entreprises, elles font ce qu'on leur a demandé.
Si les entreprises font du RSE, c'est parce que c'est une niche fiscale. Tu enlèves la niche fiscale, ils en feront plus.
Moi, j'ai compris que vous vouliez à tout prix taxer les dividendes et la spéculation. Oui. Mais finalement, les
dividendes... On va mettre de la morale à l'argent.
Mais les dividendes et la spéculation, finalement, c'est un paquet de Français qui ont mis leur économie en bourse pour se préparer une retraite. C'est un paquet de Français qui, en mettant cet argent dans des entreprises, permettent de créer une nouvelle usine et donc de nouveaux emplois.
La majorité des bénéfices, c'est des retraités en Floride.
Rien
n'empêche de faire des fonds de retraite françaises.
Vous opposez.
Ça marcherait mieux que nos systèmes de retraite.
Ou des patrons eux-mêmes qui, en plus d'avoir un salaire en millions, ont des actions.
Laissez Antoine finir.
Ce que vous voulez faire, en fait, c'est empêcher l'investissement dans notre pays en quasi criminalisant le seul fait d'investir parce qu'on va toucher des dividendes. Vous empêchez de toucher des dividendes, si vous rendez les dividendes en France moins intéressants qu'ailleurs, l'argent de l'investissement partira dans d'autres pays et vous n'aurez rien gagné.
Et Antoine,
je vais te faire une métaphore. On fait la différence entre investissement et dépense. Mm-hmm. Ce qu'on veut, c'est favoriser les investissements, mais par contre, ne pas favoriser les dépenses. Quelque part, ce sera un petit peu, c'est la métaphore que vous
pouvez savoir. Différence entre
la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'argent qui crée de l'emploi, qui crée des richesses pour la planète et qui crée de la morale à travers l'écologie. On est pour qu'il n'y ait pas la même fiscalité, pour que l'argent qui crée uniquement des résidences de luxe pour des retraités en Floride. C'est tout.
Et l'écologie, c'est pas une affaire de morale, c'est une affaire de survie. Hein. Donc, en fait, on va se calmer. Et l'éducation des enfants, c'est pas une affaire de morale, c'est une question de survie.
C'est une question de
politique. L'économie,
c'est pas une question morale.
Non, c'est une question politique.
Oui, mais le problème, c'est
le rôle du politique, contrairement au rôle du chef d'entreprise.
Vous voyez pas dans l'angle moral.
Mais qui te fait la morale ici?
Ah, bah si, Sandrine Rousseau.
Qui te fait la morale?
Sandrine Rousseau, on écoute,
mais qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais pourquoi tu me parles? Qui a parlé de Sandrine Rousseau? Elle s'est exprimée sur cette question ces derniers jours?
Ah, bah oui, elle s'est exprimée là-dessus, bien sûr.
C'est pas la question de Sandrine Rousseau. La question, c'est que le coût de l'inaction, il va être sur nos impôts. Donc c'est encore les Français qui vont payer le fait que les entreprises n'ont pas investi. Les mêmes entreprises qui font des super profits grâce à quoi? Aujourd'hui, quand Bruno Le Maire il nous parle de déficit, il dit c'est la fin de la récré, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il donne de l'argent.
C'est la fin du quoi qu'il nous en coûte.
Il donne de l'argent aux entreprises et il le rembourse en retirant les remboursements de médicaments aux Français les plus précaires. C'est ça l'économie selon Bruno Le Maire.
C'est pas les entreprises qui font des gros bénéfices, des gros dividendes sont pas celles qui ont touché l'argent du Covid, etc. Vous confondez tout. C'est-à-dire que c'est l'État a sauvé beaucoup de petites PME fragiles, etc. Mais l'État n'a pas sauvé Total, l'État n'a pas sauvé LVMH.
Total n'a pas besoin de l'État. Hein.
Voilà.
C'est des entreprises qui se portent très bien sur l'État.
Qui vivent très bien et qui payent déjà beaucoup d'impôts.
Eh ben, raison de plus,
c'est marrant, c'est que tu parles de protectionnisme. Aux États-Unis, tu as un protectionnisme fiscal. C'est-à-dire que quand tu es citoyen américain, où que tu vives, tu payes des impôts pour les États-Unis.
Tu ne payes pas les mêmes impôts.
Je suis assez d'accord avec ça.
Les États-Unis, leur modèle est plus social.
Et même au-delà, si tu as une morale sur le dollar. Le dollar, tu es contrôlé dans la planète entière. Quand tu utilises le dollar, même si tu n'es pas américain.
C'est un peu plus facile quand c'est moins élevé que chez nous.
Je remercie Loïc d'avoir été avec nous. On va aller dans le Gard avec Mickaël, qui est infirmier libéral. Bonjour Mickaël.
Bonjour à tous.
Bonjour. Vous êtes pour la taxe ou pas, Mickaël?
Oui, totalement. Merci Mourad d'avoir mis l'accent sur tout ce qui se passe au niveau des gros labos, notamment pour ce qui est soigné le cancer. Je suis totalement d'accord avec vous.
Bien sûr.
Moi, à mon petit niveau, c'est vrai que je vous donne un exemple précis. J'ai un patient avec un petit pansement qui nécessite pas beaucoup de matériel. Je mets pas la faute sur le médecin, mais quand j'ai trois énormes boîtes à 100 euros pièce qui me sont livrées chez le patient, avec dedans des ciseaux, des scalpels, des compresses, qui s'en met plein les fouilles, c'est le labo qui vend son pack à la pharmacie. C'est pas grand chose, mais multiplié par le nombre de patients, multiplié par le nombre de plaies, c'est ahurissant quand on pense que l'économie n'a pas de morale.
C'est comme quand tu as besoin de deux Doliprane et qu'on te vend une boîte de vin.
Quand j'entends que l'économie n'a pas de morale, excusez-moi, mais si, dans le monde dans lequel on vit, l'économie a une morale aujourd'hui parce que les gens n'acceptent plus de se faire spolier et à côté d'avoir des grandes entreprises qui dégagent des dividendes à n'en plus finir. Ça, c'était peut-être le monde d'avant, mais aujourd'hui, on est obligé de faire attention.
Mais c'est de l'emploi aussi, ces entreprises, c'est des familles, c'est des salariés, c'est de l'emploi.
Évidemment,
ces entreprises, elles ne font pas comme ça.
On parle de morale. Est-ce que la vente d'armes doit être fiscalisée comme les autres secteurs?
La France est fiscalisée, la vente d'armes. Ils vendent le plus d'armes au monde.
D'ailleurs, s'il n'y avait pas de morale, on légaliserait le cannabis. Non,
on peut vivre sans entreprise, sans rien. On peut se tiermondiser encore davantage.
Pourquoi tu as toujours besoin d'aller dans les
excuses? On demande de l'équilibre aujourd'hui. Les gens demandent simplement de l'équilibre. Et en fait, ce qu'on montre, ce sont des chiffres ahurissants. Et à côté, on demande aux gens de se serrer la ceinture. Et ça, tout simplement, les gens ne l'acceptent pas.
Dans les domaines essentiels.
C'est parce qu'on gère mal notre argent.
Vous venez de dire que l'argent de la sécurité sociale était mal dépensée avec des boîtes hors de prix dont vous n'aviez pas besoin. Donc, qu'on se serre la ceinture là-dessus, il y a urgence. Moi je pense vraiment qu'on doit revoir la façon dont on distribue nos médicaments, etc.
Il y a un système américain, où tu as une boîte sociale, avec exactement le nombre de cachets dont tu as besoin.
Donc, il y a se serrer la ceinture et se serrer la ceinture.
Mais les labos ne sont pas d'accord.
Supprimer les dépenses superflues, c'est urgent. Ensuite, quand on aura supprimé les dépenses superflues, On pourra en reparler. Moi, je pense que dans les dépenses de santé, il y a beaucoup, beaucoup.
Tu commences
beaucoup
à passer dans notre camp, parce que là, tu vas toucher aux super profits des laboratoires pharmaceutiques qui ne vont plus, qui vont vendre leurs médicaments au détail et non plus en boîte.
Mais Mourad, toi, tu penses morale. Oui. Moi, je dis juste, si les lois changent et que on les empêche de vendre, ils vendront plus. Forcément, ce sera plus remboursé par la sécurité sociale.
C'est pas moral,
et donc, arrêtons de voir le truc.
Allez-y, Michael, pardon.
Pour moi, là, il y a morale et il y a bon sens aussi. Si vous voulez, quand je vois, pour vous donner encore un petit exemple, vous venez chez moi, j'ai des patients entre 90 et 95 ans de manière générale, vous allez dans leurs armoires, c'est pas 3 boîtes de Doliprane qu'elles auront trop, c'est des 50 et des 60 boîtes de Doliprane dans chaque armoire.
Oui, c'est pas le problème des labos. C'est le problème
de la sécurité. Les labos, ils sont pas d'accord pour qu'on change le système. C'est des super profits pour eux et ils veulent pas qu'on y touche.
Mais
comme toi.
Il y a un pouvoir politique en France. Que le pouvoir politique change ça, et les labos vendront moins.
Il y a des lobbies aussi en France.
Ouais, tu vois des lobbies partout aujourd'hui.
Michael, infirmier libéral qui est dans le camp de Flora Guimali.
Il faut que tu portes des lunettes déjà, donc il faut changer, il faut prendre au-dessus.
De toute façon, parce la majorité lobbies, est dans partout. Notre camp.
Oui, c'est sûr qu'on veut.
Vous savez,
taxer les autres, ça marche toujours. C'est très français.
Ouais. Vous savez où se trouve
la ici, celui qui a payé sûrement le plus d'impôts. Donc,
vous savez où se trouve
pour me dire ça.
La plus grosse masse d'argent disponible aujourd'hui qui permettrait de régler le déficit français. Dans l'épargne des Français, 6 000 milliards.
6 000 milliards,
oui. Eh ben, l'épargne des Français, c'est 6 000 milliards.
Les Français
c'est
deux fois
le montant de la dette nationale aujourd'hui, de la dette publique. C'est-à-dire que si les Français sortaient une partie de cet argent et le réinjectaient dans l'économie, on réglerait une partie
de la dette.
En assurance vie, alors à tous les niveaux, en assurance vie, en livret A, en livret B.
Il faudrait d'abord un plus de sécurité sur l'avenir.
6 000 milliards. 6 000 milliards
qui dorment. Non, c'est normal aujourd'hui de fiscaliser de la même façon. Donc il est plus fiscalisé à l'arrivée. Quelqu'un qui dépense 100% de ce qu'il gagne, quelqu'un qui va dépenser une partie et thésauriser l'autre. Quelqu'un qui dépense 100% de ce qu'il gagne, il va être plus fiscalisé parce qu'il va payer la TVA sur sa consommation.
Donc Mourad, tu demandes à être
plus imposé.
Sauf que Mourad tu demandes à être plus imposé.
Mais Mourad, les revenus...
Je pense que celui qui dépense 100% de ce qu'il gagne, il doit avoir un avoir fiscal.
Est-ce qu'en France, on gagne de son travail et pas de son héritage.
Mais pourtant, je suis mal placé pour en parler parce que j'en profite.
C'est pas
je reconnais
compliqué.
Qu'il n'y a pas de morale.
Vous savez, aujourd'hui,
Flora, je crois que tu es hyper bien placé pour parler d'héritage. En fait, je veux dire, il y en a qui ont plus de chances dans la vie.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Je pense que tu viens d'une famille bien plus aisée que la mienne.
Ah bon? Qu'est-ce que t'en sais?
Je pense.
T'as regardé mon patrimoine? Tu connais mon patrimoine? Mon patrimoine est public?
Ce que je veux te dire.
Qu'est-ce que t'en sais?
J'en sais rien.
Mais c'est pas un débat.
Donc dis-moi que t'es une petite pauvre. En fait,
qu'est-ce que je suis en train de te dire? Est-ce que je suis en train de te parler de ma situation personnelle?
Tu dis.
Ce que je te dis, c'est que j'aimerais que les Français puissent gagner plus avec leur travail qu'avec leur héritage.
Tu dis que ceux qui héritent sont
Du haut de ton arrogance.
Moi, je pense que l'héritage est important.
Tu te venges pour ton hystérie de ce matin dès qu'on parle d'un sujet raciste, c'est ça?
J'ai pas besoin de me venger.
Tu me traites de petite bourgeoise. Tu me traites de petite bourgeoise. Tu sais, la France, elle va mal parce qu'on accuse aux gens ce qu'ils sont et pas ce qu'ils disent. Donc en fait,
mais c'est toi qui viens d'accuser les gens qui héritent. Et donc moi, je pense qu'on n'a pas de problème.
Oui, c'est ce que tu as dit. Il vaut mieux de son travail que de son
héritage. J'ai dit que j'aimerais qu'on gagne de son travail plus que de son héritage. Je crois qu'Olivier et Mourad étaient d'accord. Et je crois que c'est du bon sens. Et qu'aujourd'hui, on ne peut même pas accéder à un logement en tant que propriétaire en ville avec son salaire. Est-ce que c'est normal?
Non.
On ne peut pas devenir propriétaire aujourd'hui en France quand on gagne sa vie si on n'a pas, un capital.
À Paris, chez
les gens qui héritent. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que si vous n'héritez rien, vous ne pouvez pas devenir propriétaire.
C'est faux.
En ville, dans les centres-villes.
À Paris, tu ne parles que de Paris.
Dans les centres-villes,
moi, je n'ai pas hérité. J'ai réussi avec mon travail à m'acheter un modeste appartement à Dunkerque.
C'est quoi le rapport, Florent?
Je suis pas d'accord avec vous.
Idiot.
Je pense que
il habite Dunkerque, c'est pas pareil.
Dunkerque pour 30 000 euros, t'as 600 mètres carrés. Le démontre. On est quand même aujourd'hui. Je sais plus qui c'est une étude très intéressante qui disait que aujourd'hui, pour réussir à s'élever socialement, il faut 70 ans de travail. Alors qu'il y a dans les années 50, il fallait
juste un mot. On vient de dire que c'est pas bien d'épargner. On vient de dire que c'est pas bien d'hériter.
Personne n'a dit.
J'ai pas dit que c'est pas bien. J'ai dit que c'est mieux de consommer.
Vous allez juste tuer. Vous tuez juste l'idée de la propriété individuelle. Et en fait, on a l'impression que celui qui épargne, celui qui hérite, est un malfaisant. Non, moi, je défends l'épargne et je défends l'héritage.
C'est mieux de consommer. Il faut que les Français consomment.
Non.
Il faut s'enlever cette angoisse de la retraite qui fait qu'on thésaurise beaucoup parce qu'il y a une vraie anxiété sur la retraite.
Ça, c'est
et ramener les gens à consommer, à avoir confiance. Et de cette consommation, on va tirer de la croissance.
Dans un instant,
pour nous rassurer sur la retraite, il faut faire des réformes qui rassurent.
De toute façon, vous avez plié le match parce que les Français sont d'accord avec vous. À 73%, ils veulent qu'on taxe les super profits. Dans un instant, on va s'intéresser à une proposition du ministère de la Justice d'Éric Dupond-Moretti. Il propose, sur la base du volontariat, que des familles accueillent les jeunes délinquants pour les sortir de leur milieu et leur donner une chance de réinsertion. Est-ce que vous seriez prêt à le faire? 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en train de discuter, de débattre ici au Salon de l'Industrie.
Paisiblement.
À Global Industrie, en direct de la Villepinte, bien sûr, en Seine-Saint-Denis, Salon Global Industrie. On rappelle un peu les chiffres de l'industrie aujourd'hui en France, qui a représenté au quatrième trimestre 2023 40% des créations d'emplois. L'industrie, c'est 100 000 emplois créés depuis 2017. À l'horizon 2030-2035, même c'est 600 000 emplois de plus. On cherche des hommes, des femmes qualifiées, pas qualifiées, dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle, dans la tech, en plus dans point commun à tous ceux qui sont présents, c'est l'innovation industrielle et la transition écologique. Donc c'est plutôt pas mal, on a parlé tout à l'heure avec Bruno Bonnel. On va continuer notre discussion, on va revenir à nos débats sociétaux, nous, avec une proposition d'Éric Dupond-Moretti.
RMC, les grandes gueules.
C'est le ministre de la Justice qui veut sortir certains délinquants de leur cadre familial instable pour leur offrir une deuxième chance via un nouveau contexte familial.
Oui, alors c'est assez surprenant, la proposition de Dupond-Moretti. Ces jeunes ont commis des infractions. Visiblement, il faut les sortir. Alors ça, on peut le comprendre, de leur milieu, peut-être même de leur quartier, parce que s'ils y retournent, ils vont de nouveau être entraînés. Et donc, trouver des familles d'accueil. Alors ça existe, les familles d'accueil pour des jeunes, des enfants qui sont en difficulté. Là, ce qu'on essaye, moi j'ai du mal à comprendre, je ne sais pas comment vous l'avez compris, c'est est-ce qu'ils ont déjà fait leur peine? Est-ce que c'est une peine de substitution? Parce qu'avant tout, un délinquant, il faut le punir.
Ouais.
Et puis ensuite, on peut essayer de le réhabiliter et de le trouver une seconde chance, parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que rien n'est joué, enfin définitivement, qu'un enfant peut, n'importe quel enfant peut être sauvé du moment qu'effectivement on l'aide à le faire. Mais est-ce que ça remplace la sanction? C'est ça qui
cherche une famille d'accueil pour Nordal Le Landais là.
S'il y a quelqu'un on parle d'enfant.
Il y a déjà un enfant qui va arriver dans le contexte familial de Nordal
Le
Landais.
Alors,
est-ce que vous pourriez être volontaire pour donner la seconde chance, sa seconde chance à un délinquant, oui ou non? 32-16 pour en parler avec les Gémorades. Est-ce que tu pourrais le faire?
Non, je pense que le ministre de la Justice se trompe complètement. Le problème de ces gamins, c'est au-delà de l'éducation, c'est qu'on est dans une société consumériste et qu'ils n'y ont pas accès. Donc moi, je pense que par contre, plutôt que la famille, c'est l'entreprise. Je pense que l'entreprise est une solution pour que ces gamins commencent à travailler, commencent à gagner leur vie.
Soit apte à travailler.
Mais commencent à gagner leur vie, commencent à pouvoir être des acteurs dans une société consumériste. Et moi, je suis persuadé, je suis intimement convaincu que plus on grandit socialement, plus on s'éduque et on apprend les règles de la société. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas dans une famille d'accueil, ça servira à rien. Je pense que le ministre se trompe.
On va être un peu à front renversé, parce que je pensais pas que tu tiendrais cette position. Et moi, je me surprends à trouver que cette idée est peut-être bonne. C'est-à-dire que on le dit tout le temps ici. C'est pas le problème de l'école, c'est le problème de l'éducation. On le dit tout le temps ici. Les délinquants, c'est souvent l'absence d'un père, etc. Et donc, comme le dit Olivier, moi, je pense qu'il faut qu'ils aient purgé leur peine, mais qu'ensuite on leur donne un cadre familial stable, un cadre d'éducation stable.
Ces gamins, ils veulent consommer.
Je crois. Oui,
c'est pas le cadre qui va consommer.
Je crois que la consommation n'est pas un mode d'éducation. L'éducation, c'est quelque chose qui est en dehors du monde de la consommation.
Je crois que ce sont des valeurs que pour la consommation, parce qu'ils sont
c'est le défaut de l'éducation. Et donc moi, j'imagine complètement des familles à la campagne qui décideraient, allez, on va donner une chance à un jeune délinquant une fois qu'il a purgé sa peine, en l'accueillant ici, en lui donnant des bases pour affronter le monde.
Flora.
Moi, je crois qu'il y a deux. Je suis plutôt très pour. Ouais, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est que quand on est un jeune petit délinquant, on peut aller en prison et ressortir grand délinquant. Donc ça, forcément, c'est jamais une bonne solution.
Les statistiques démontrent
que le deuxième problème, c'est que les anciens détenus, ils récidivent à 70% en France. Donc on le sait, quand on sort de prison, on récidive. Alors en petite, en grande délinquance, que sais-je, mais en tout cas, on a beaucoup de chances de récidiver. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir un modèle d'insertion qui est favorable. Est-ce que la famille, c'est le bon cadre? Je sais pas, parce que quand on est un adolescent, on n'a peut-être pas envie de se retrouver dans une autre famille qui a peut-être une autre culture, un autre mode de vie que le sien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'insertion, ça permet de faire baisser le taux de récidive. Et il y a une association formidable qui s'appelle Wake Up Café, que je salue souvent au GG. Elle accompagne des anciens détenus. Mmh. Vous savez, c'est une ancienne aumônière de prison. Elle a quitté son job en prison parce qu'elle n'en pouvait plus de voir les anciens détenus revenir. Elle disait, moi je fais mon travail en prison, ils sortent et 3 mois, 6 mois plus tard, ils reviennent. C'est insoutenable. Et donc elle a créé Wake Up Café et figurez-vous que les résultats sont édifiants. La récidive des détenus, des anciens détenus accompagnés par l'association, baisse à 4%. Donc l'insertion s'est prouvée et je suis contente.
Mais là on parle d'adolescents. Hein.
Oui, on parle d'adolescents encore plus. C'est le moment d'enrayer le cycle des violences.
Les adolescents, je pense qu'ils ont besoin enfin souvent on a ces témoignages, il faut qu'ils sortent de leur quartier parce que souvent ils sont entraînés, ils reviennent, ils
ont l'entreprise te permet de sortir
voilà, et formidable. Notamment la drogue, etc. Sortir visiblement, alors c'est pas toujours le cas, mais de milieu d'une famille défaillante, de parents qui sont pour X raisons pas capables d'éduquer, et quand même donner un cadre, et puis surtout donner des exemples, des modèles. Si t'arrives avec une fratrie, tu vas voir qu'on peut faire différemment. Qu'on peut faire et avant d'aller dans une entreprise ou ailleurs. Et en plus, j'imagine qu'il faut ensuite qu'ils se réinsèrent dans l'école. C'est-à-dire qu'il faut repartir sur un parcours scolaire. Parce qu'il doit y avoir des manques là.
Je suis désolé, on parle d'un sujet que j'ai vécu, c'est le mien, je veux dire, c'est ma vie. Voilà. Moi, ce qui m'a permis de grandir, ça a été l'entreprise. Quand j'ai découvert l'entreprise, quand j'ai pu participer à une société consumériste.
Oui, mais à quel âge?
Ben, j'étais adolescent quand j'ai découvert l'entreprise. Enfin, j'étais pas.
Pourquoi c'était ta vie? T'étais délinquant avant?
15 ou 16 ans. 15 ou 16 ans quand je me suis dit, voilà. Mais pour moi, là, ce qui était m'intégrer, c'était. Mon problème était que je voulais participer à cette société consommariste. Soit j'y participais de façon légale, soit j'y participais de façon illégale. Mais dans les deux cas, j'allais y participer. Voilà. Bon, il se trouve que grâce à l'entreprise, j'ai trouvé un chemin pour y participer.
Oui, mais de façon légale et satisfaisante. Est-ce que tous ces jeunes sont aptes à tout de suite travailler parce que l'entreprise, elle n'est pas là non plus pour gérer des cas.
T'as des intelligences intuitives qui pourraient vraiment beaucoup apporter. Et je suis certain que beaucoup d'entrepreneurs seraient surpris. D'abord par la volonté, par l'envie, la capacité à travailler et par l'intelligence intuitive.
Alors, les familles ne sont pas livrées à elles-mêmes dans ces cas-là. Les familles se portent volontaires. Elles ont ce qu'on appelle un accompagnement journalier. Oui. Elle bénéficie aussi d'une petite indemnité. Et voilà, il faut que.
Il y a des conditions. Il faut avoir une chambre libre.
Voilà.
Il faut que les parents n'aient pas de casier judiciaire.
C'est mieux.
Il faut répondre à un certain nombre de critères, bien sûr.
Donc Michel Fourniret ne peut pas accueillir un enfant.
Non.
Mais de toutes les manières, ça concerne que des ados, de toutes les manières. Donc on va voir ce que vous en dites au 32-16. On va écouter qui est avec nous. On va écouter Anthony qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Bienvenue Anthony. Vous pourriez être volontaire ou pas?
Oui, tout à fait.
Accueillir des jeunes?
Tout à fait. Bah, écoutez, moi, pour faire très simple, c'est déjà arrivé à 2 reprises. Donc j'ai accueilli 2 jeunes dans la structure dans laquelle je travaille. Étant moi-même issu d'une enfance un peu délicate, je me suis dit pourquoi pas essayer de passer l'appareil et puis aider quelqu'un à sortir de la galère, tout simplement. Sauf que les 2 fois, ça s'est super mal passé. Donc il y en a un qui répondait à chaque fois, qui ne voulait pas écouter les conseils, qui voulait pas être formé, qui arrivait tout en retard. C'est, on est dans la mécanique industrielle, on fabrique des machines de coupe et de broyage pour les industries, agroalimentaires principalement, et on a énormément de boulot, on est constamment à la recherche de nouvelles personnes, et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer d'aider des jeunes comme moi.
Cette personne n'avait pas les codes en fait du vivre ensemble, c'est-à-dire de base quoi.
D'avoir les codes c'est pas forcément grave parce que nous on était prêts, moi et toute l'équipe derrière, on était prêts à les former, à les aider à justement à apprendre comment ça fonctionne dans une entreprise. Et bah du coup, à chaque fois, malheureusement, ça s'est mal fini. Donc soit tout simplement parce qu'il répondait, il voulait pas, il y avait pas l'acceptation de la hiérarchie, il y avait pas l'envie d'apprendre, il y avait pas toutes ces choses-là. Moi, je sais que quand j'ai commencé à leur âge, j'avais envie de détruire le monde, de goûter à tout, d'apprendre énormément de choses. Ouais, et malheureusement, je retrouve.
Donc, voilà, c'est une envie quand même au départ.
Et de quel milieu justement familial venaient ces jeunes que vous avez eu avec vous?
Le premier, il y avait
déstructuré complètement.
Ouais, déstructuré complètement. Donc il y en avait un. Le papa était en prison. D'ailleurs, lui aussi avait fait un séjour en maison d'arrêt pour mineurs. Et le deuxième, on est à peu près sur le même cas de figure, sauf que c'était la maman. Mais voilà, je me suis dit.
Il y avait des problèmes de stupéfiants aussi ou autre ou pas?
Alors, pour un des deux, il y a eu des soucis de stupéfiants dès le matin à 7h30. Donc, on l'a recadré direct en lui disant, écoute, on est dans du matériel de coupe et de broyage. Déjà, premièrement, faut éviter. Deuxièmement, c'est pas légal du tout. Et troisièmement, si jamais il t'arrive quelque chose dans le cadre du travail, bah, on sera fautif, nous aussi, parce qu'on t'a accepté.
Bien sûr.
Et on le voyait bien par rapport au comportement, au langage,
aux yeux.
Donc,
c'est pas quelque chose que vous avez...
Eux, ils étaient pas volontaires. Ils étaient volontaires ou pas?
Alors, ils étaient volontaires dans le sens où ils sont venus déjà à un premier entretien d'embauche. Donc, nous, on n'embauche pas comme ça à la va-vite. Donc, il y a eu un premier entretien d'embauche. On les a reçus une première fois. On les a briefés sur ce qu'on voulait d'eux, ce qu'on attendait d'eux. On les a rassurés dans le sens où on allait les former parce qu'on savait qu'ils n'avaient aucune qualification.
Ils étaient rémunérés ou pas?
Ils étaient bien sûr rémunérés et plutôt bien rémunérés d'ailleurs. Donc, on tournait aux alentours des 2000 euros nets par mois.
Ah oui, c'est bien. Ah oui,
oui, voilà.
C'est bien.
Avec une belle perspective d'évolution. Voilà, et puis derrière avec une belle perspective d'évolution.
Donc c'est pas, vous dites que c'est pas si simple en fait.
Non, c'est vraiment pas si simple. Et puis on leur acceptait 5% volontiers chaque année. Donc histoire de les maintenir et de les garder avec nous. Mais il y en a un clairement qui nous a fait comprendre que il avait des avantages derrière à se mettre au chômage qui était mieux quoi. Donc je sais pas, peut-être qu'on paye trop au chômage, je sais pas du tout hein. Je n'y ai jamais été.
Anthony, merci de cet exemple que vous nous avez donné, mon cher Anthony, ingénieur en maintenance, voilà, qui a tenté le coup avec deux jeunes venus justement de ces milieux de la délinquance. Éric Dupond-Moretti veut faire en sorte que ces expériences soient pérennisées, amplifiées, avec des familles d'accueil. C'est-à-dire, là, Anthony, c'était dans son entreprise, mais après, c'est à la maison. Est-ce que vous pourriez le faire? Venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Alors, est-ce que vous êtes prêt à prendre à la maison des jeunes délinquants, des jeunes qui sont suivis par la police, par la justice, plutôt qui ont été condamnés? C'est de la délinquance juvénile, comme on dit, mais Éric Dupond-Moretti aimerait globalement que ce dispositif soit intensifié. Éric Dupond-Moretti l'a dit, l'année dernière, il y avait plus de 700 jeunes déjà qui en ont bénéficié. L'idée, ce serait de faire en sorte de les sortir de leur cadre familial qui est plutôt déstabilisant ou défaillant et de les mettre dans un cadre plutôt positif. On avait l'exemple d'Anthony qui les prend dans son entreprise. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée, oui ou non, ou c'est plutôt compliqué aujourd'hui? C'est la question que l'on se pose et on en débat avec vous dans les GG, dans les grandes gueules. Mourad, il faut inciter les familles. Alors c'est sur la base du volontariat, mais leur dire que c'est pas forcément une expérience.
Mais je sais pas si la seule morale, c'est pas l'argent, quoi. En fait,
Là, ils étaient bien payés, t'as vu, dans le cas de notre ami, 2000 euros net.
Mais peut-être qu'en Dylan, tu gagnes beaucoup plus, sûrement.
Ah bah oui,
Mais je sais pas si la morale, ils y sont sensibles. Moi, ils sont dans une société où pour la morale, c'est pouvoir en faire partie. Pour en faire partie, c'est pouvoir consommer, dans une société où on est sollicité sans arrêt pour consommer. Et je crois que la solution, elle est là. Et c'est l'entreprise qui peut leur apporter ça. Moi, je crois énormément dans les vertus de l'entreprise.
Alors, je vois un autre aspect de la question. C'est que s'ils sont pas mis dans ces familles, il y en a une partie d'entre eux qui vont aller dans des foyers. S'il y a rupture familiale, c'est pas l'idéal, etc. Et a priori, les foyers dans notre pays sont vraiment dans une situation dramatique. Et donc, si les mettre dans des familles, c'est éviter qu'ils aillent dans des foyers où ils seront pas encadrés, éventuellement soumis à des jeunes délinquants pires qu'eux qui les engrainent dans des trucs mauvais, moi je suis très pour qu'on évite au maximum les foyers, qu'on aille vers des familles d'accueil comme ça.
Il y a Elina Dumont qui nous écoute et qui me dit, mais attendez, c'est un métier, s'occuper de jeunes en difficulté ou délinquants est compliqué, difficile, et ce sont les éducateurs qui doivent faire ce boulot. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, on manque d'éducateurs et Et donc, on va trouver une autre solution, on va prendre des familles qui seront volontaires, qui seront de plein de bonne volonté.
On a vu ce que ça a donné d'avoir des éducateurs depuis 20 ans.
Non, mais se retrouver avec un cas exceptionnel, un jeune qui a de grosses difficultés. Qui n'a pas d'éducation, etc., ça ne s'improvise pas. Peut-être qu'il faut des professionnels, même si la famille est de bonne volonté. Je pense que ça part d'un bon sentiment.
Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que l'insertion, c'est un métier.
Voilà une façon de... Désolé, les amis.
Voilà une bonne méthode d'insertion.
Là, voilà, bonne méthode d'insertion en gagnant 58 euros. Vous avez 5 minutes devant vous en envoyant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez, vous êtes tiré au sort. Vendredi, vous passez dans les grandes gueules. D'ores et déjà, vous avez gagné 2500 euros. Si vous me demandez d'ouvrir le coffre, eh bien, vous laissez tomber les 50 000 euros. Mais vous pouvez gagner des vacances dans un club Tikayan. C'est un club camping pour 6 personnes. Et il y a peut-être aussi, s'il n'y a pas le camping, les 50 000 euros. Donc allez-y, envoyez coffre par SMS 732-16. Flora, je te redonne la parole. Vas-y.
Ce que je disais, c'est que l'insertion, c'est un métier. Et qu'il y a des éducateurs et il y a tout un secteur qui est professionnalisé là-dedans au sein de l'économie sociale et solidaire, que ce soit sous forme associative ou sous forme d'entreprise d'insertion. Il faut pas. En fait, c'est formidable que le garde des Sceaux s'empare de cette question, qui est la question de l'insertion, puisque ça suffit de soit ne pas suffisamment sanctionner, soit de mal sanctionner les adolescents délinquants. Il faut les éduquer. Par contre, la question, c'est quel est le parcours d'insertion qu'on va leur proposer et comment on va trouver une solution qui est adaptée et qui permet vraiment de régler leur délinquance. Le problème de leur délinquance, oui. Et donc, moi, par exemple, il y a une association que je voudrais saluer qui est née en Occitanie. Qui est aujourd'hui partout en France, qui s'appelle les écoles Être. Les écoles Être, ils prennent des jeunes qui sont un peu ou délinquants ou un peu exclus du système, qui sont déscolarisés, parfois qui ont des addictions, et ils les forment au métier de la terre, au métier de l'artisanat, au métier de l'agriculture, etc. Les écoles de la transition écologique, aujourd'hui, ils créent de l'emploi. On en parlait justement puisqu'on est en direct du Salon de l'Industrie. Il y a énormément de métiers qui manquent de main-d'œuvre et qui sont à pourvoir. Et c'est des éducateurs qui, en plus d'apprendre un métier aux jeunes, leur donne confiance en eux et leur donne envie d'être dans le système. Comme le disait Mourad, est-ce que tu as envie de participer au système ou au contraire de passer sur le côté et d'être dans l'illégalité, la clandestinité? Et donc, je crois qu'il faut vraiment faire confiance à ces associations. Et le problème qu'elles ont aujourd'hui, c'est qu'elles font très bien leur travail, mais évidemment, elles ne sont pas suffisamment dotées, elles n'ont pas assez de moyens pour faire leur travail à grande échelle.
On va en parler avec Gilles, qui a été famille d'accueil. Gilles qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Gilles.
C'est Philippe.
Philippe. D'abord, Philippe, retraité de l'armée. Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour, Philippe. Vous vous dites, ça pourrait être une priorité, ça pourrait être une possibilité pour vous.
Mais ce n'est pas une possibilité. Nous, il y a longtemps, moi j'ai fait, en étant au sein de l'armée française, on avait un système qui accueillait les jeunes qui étaient délinquants. Et c'était un système qui a été aboli depuis un moment. Et on avait des jeunes délinquants, et il y en avait quand même 60 à 70% qui arrivaient quand même à se réinsérer correctement en ayant un système, bon, je ne parle pas de l'armée française parce que je suis ancien militaire, mais qui aurait fait que ces jeunes-là, ben, on leur a donné des directives, un but dans la vie, et qui a fait que ces jeunes-là, ils arrivaient à re-rentrer dans la vie publique normale.
La fin des services militaires n'a pas aidé. Vous avez totalement raison là-dessus. Car la fin du service militaire n'a pas aidé.
Attention, je ne parle pas de la... on a arrêté l'armée, on a arrêté tout ça. C'est un gros tort, je pense, à remettre un peu des jeunes dans la vie. Et des droits, des reconnaissances par rapport à la vie qu'on avait. Parce que les jeunes, bon, moi j'ai fait 30 ans d'armée, comme j'ai dit, mais ces jeunes-là...
Ça s'entend dans la voix.
Pardon ?
Ça s'entend dans la voix, c'est rigolo.
Oui, mais ces jeunes-là, moi j'en ai eu des durs. J'en ai eu de Paris, qui arrivaient en Allemagne, qui étaient complètement déboutés, mais c'était des délinquants complets de Paris. Et mais ces jeunes-là, j'ai toujours... Je correspond toujours avec.
Mais
il y en a certains où ils ont pris des tartes. Ces jeunes-là, je suis toujours avec eux. Ils ont 50 ans, ils ont réussi leur vie. Je ne dis pas...
Non, mais c'est clair là-dessus, vous avez raison, l'armée a porté là-dessus.
Je vous entends très mal.
Parce qu'on est dans le salon, là, ça, on a beaucoup de bruit autour de nous, désolé.
Une grosse caisse de résonance. Mais je ne dis pas qu'il faut remettre l'institution militaire, ce qui serait impossible. Avec les jeunes qu'on a maintenant, il faut acheter, il faut... Je dirais que ça serait le pire à dire pour un ancien militaire, mais ça serait, il faudrait complètement détruire des forêts pour refaire des manches de pioche.
Philippe, il est pour une solution plus radicale. Mais Philippe, je vous remercie d'avoir été avec nous. On n'a pas pu joindre Gilles, qui est artisan en bâtiment, qui est dans le Gironde, qui a été famille d'accueil pendant 4 ans. Et Gilles voulait nous faire part de son expérience, parce qu'il a dit malheureusement, ça a été une catastrophe.
Ah, lui aussi.
Simplement, au niveau d'une seule chose, c'est du respect des règles et des codes.
Et du respect des règles. En fait, il faut tout refaire. Quoi.
Et des règles et des codes que lui, il instaurait simplement à la maison. Ouais. Voilà, et c'est là ça a été compliqué. En revanche, on a quelqu'un qui connaît ce problème, c'est Étienne Liebig, notre éducateur en Seine-Saint-Denis, qui est avec nous, notre GG éducateur. Bonjour Étienne.
Salut Étienne.
Alors, est-ce que c'est une bonne idée, Éric Dupond-Moretti, de vouloir pousser cette insertion dans des familles d'accueil alors?
Écoute, ça fait une troisième alternative. Il faut une alternative à la prison, parce qu'on sait que la prison, c'est pas la solution. L'autre alternative, c'est les centres fermés. Et malheureusement, les résultats sont pas très bons. Et alors, bon, la famille d'accueil, ça fait une alternative. Je suis pas sûr. Aujourd'hui, on a une grosse difficulté à trouver des familles d'accueil pour accueillir des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Tu m'entends? Vous m'entendez?
Oui, bien sûr, vas-y.
Oui, qui sont des jeunes de l'aide sociale à l'enfance et qui sont des jeunes qui n'ont pas de difficultés particulières de type prédélinquance, etc., puisque ce sont des jeunes qui ont simplement été victimes de violences familiales, etc. Et il y en a plusieurs, et vous le savez, il y en a plusieurs milliers qui sont aujourd'hui, qui ne trouvent pas de... Rien que dans le Nord, il y a 1100 jeunes qui ne trouvent pas de place. Ils n'ont fait aucun acte de délinquance. Donc, à peu près.
Donc, on aura du mal à trouver des familles, c'est ça que tu dis.
On compte à peu près 600 jeunes par an, quoi, qui peuvent être accueillis sous ce régime-là, d'après ce que j'ai compris. Mm-hmm. Donc, c'est à peu près, c'est pas très signifiant. Et ensuite, alors, le problème, c'est qu'on a l'impression vraiment que n'importe qui peut accueillir n'importe quel jeune. Moi, je crois que c'est pas seulement l'éducation rude, le système apprendre les principes, ça. Les jeunes en général qui passent à l'acte délinquant, ils ont pris des traumas depuis qu'ils sont tout petits. C'est pas des jeunes laissés à eux-mêmes par les familles, comme on le dit tout le temps. C'est des jeunes qui, au contraire, sont souvent les plus éduqués le plus durement, mais simplement ils sont dans un système de fuite totale de tous les systèmes de...
Oui, mais peut-être qu'on peut les éloigner, pas par ce principe, voilà. Les éloigner de leur, dans leur quartier, de mauvaises influences, de leur...
Très bien, ça a existé pendant des années, ça n'existe plus parce qu'il n'y a plus de fric. Donc avant, on avait, pour les jeunes qui avaient des gros problèmes, et notamment avec la toxicomanie, on avait beaucoup de systèmes d'éloignement. Ça a été complètement supprimé, et c'est un grand dommage. Moi, j'ai beaucoup travaillé.
Là, il veut peut-être remettre ça en place.
Oui, mais oui, c'est très bien. J'ai un peu peur que le manque de professionnalisme des parents, des braves gens qui veulent accueillir...
Même s'ils ont de bonnes intentions.
C'est pas une petite affaire, C'est pas une petite affaire.
Même s'ils ont une aide.
On a eu des témoignages, ça avait l'air assez négatif, des gens qui ont essayé, et puis finalement.
C'est compliqué. C'est compliqué, parce que tu sais, les jeunes, ils arrivent déjà, on les retire de chez eux, donc ils disent, mais qui vous êtes pour me retirer de chez moi? Voilà. Et donc, c'est une décision qui n'est pas facile à accepter, C'est une séparation avec les parents.
Alors, il faudrait sur la base du volontariat?
Mais voilà, alors tout peut être sur la base du volontariat. Tu sais, quand on parle de militaire et tout, militaire, c'est pareil. La pédagogie militaire, c'est une pédagogie du volontariat. Si on est volontaire pour aller, ça marche.
Le service militaire, personne n'était volontaire, on l'a tout subi.
Oui, mais maintenant c'est le système du volontariat. Personne n'obéit.
Merci.
Aujourd'hui, c'est volontariat.
Étienne, je te remercie d'avoir pris quelques instants pour les GG, pour les grands.
Il est sceptique aussi, Étienne.
On a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne initiative de devenir famille d'accueil? Est-ce que vous pourriez le faire? Est-ce que c'est une bonne idée pour aider les jeunes dans la délinquance? C'est non à 96%.
C'est le score du Parti communiste, donc ce seront des parents communistes.
C'est réglé. On se retrouve demain en studio avec Barbara Lefebvre, Mehdi Ghezard, Frédéric Farah. Merci à Global Industrie, merci au Salon de l'Industrie ici à Villepinte de nous avoir accueillis.
Il reste ouvert jusqu'à jeudi, ça cartonne, il y a un monde fou.
Merci à tous, merci Flora, merci Antoine, merci Mourad, bon retour, bonne journée. Dans un instant, le débat continue sur RMC et RMC Story avec Estelle Denis.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules.